Vendredi 8 février, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un divorce à l'italienne. Après plusieurs mois de tension, Paris rappelle son ambassadeur à Rome. C'est la visite en France en début de semaine de Luigi Di Maio à des Gilets jaunes qui a provoqué la colère du Quai d'Orsay. À 8h20, sur cette montée de température diplomatique, le grand entretien de la matinale avec Sandro Gozi, ancien ministre italien des Affaires européennes. Standard est ouvert. Vos questions 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Un contrat russe désormais au cœur de l'affaire Benalla. Fête de la politique. Message d'Emmanuel Macron aux jeunes hier dans le Morvan. Il n'y a pas un enfant au Yémen qui n'ait pas besoin d'aide. Le cri d'alarme des humanitaires. La France est-elle en train de revoir à la baisse ses ambitions dans la lutte contre le réchauffement climatique? Et puis les victoires de la musique ce soir et la part belle faite aux musiques urbaines.
Et justement, les invités d'Inter à 7h50. Camélia Jordana, Aurel San, nommés tous deux aux victoires de la musique, seront donc tout à l'heure au micro d'Ali Badou.
France Inter. À 3 mois et demi des élections et en plein psychodrame sur le Brexit, l'Union européenne assiste à une crise diplomatique sans précédent entre deux de ses principaux partenaires. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a rappelé hier son ambassadeur en Italie. Conséquence de plusieurs mois d'échanges tendus, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien la visite secrète aux Gilets jaunes de Luigi Di Maio, vice-premier ministre italien et leader du mouvement 5 étoiles, il y a 3 jours, à Montargis, dans le Loiret. Une visite révélé par un cliché publié sur les réseaux sociaux et dont Julie Pietri nous raconte les coulisses.
La photo a été postée à l'issue du rendez-vous sur le compte Twitter de Luigi Di Maio. Un groupe de 11 personnes autour du vice-premier ministre italien, costume noir et cravate rouge. Il pose tout sourire devant l'hôtel de France de Montargis où une salle avait été réservée. Sur le cliché, comme du Nice, Gilets jaunes, candidat aux européennes.
Alors c'est le mouvement 5 étoiles qui a voulu contacter les Gilets jaunes. C'est pas nous qui avons contacté le mouvement 5 étoiles.
Plus précisément, des collaborateurs de Luigi Di Maio qui ont appelé Christophe Chalençon, figure médiatique des Gilets jaunes, et c'est lui qui a fixé lieu et heure du rendez-vous.
Mais c'est trop bon. Enfin, on arrive à déstabiliser Macron.
Parce que le rendez-vous est resté complètement secret. Pendant plus d'une heure, le mouvement 5 étoiles, mouvement populaire anti-système, a conseillé la jeune liste d'Ingrid Levavasseur, écouter aussi et proposer une nouvelle fois l'utilisation de sa plateforme internet qui permet aux citoyens de participer aux prises de décision. Le maire de Montargis, Benoît Dijon, n'en est toujours parmi.
Ils sont arrivés avec une grosse voiture noire et personne n'est informé. Ce préfet est tombé des nues, un renseignement intérieur n'était pas informé, enfin c'est ridicule, il n'y a pas d'autre mot, je ne sais pas comment ça se dit en italien, on appelle ça un bouffon, hein. Ben voilà, c'est des bouffons les gens qui font ça. Une personne publique, elle doit recevoir une protection de l'État dans lequel elle est, enfin, c'est une histoire, c'est du Tintin, hein, voilà.
Luigi Di Maio a prévu de revoir des représentants des Gilets jaunes, mais cette fois en Italie, dans les prochaines semaines.
Luigi Di Maio qui s'est dit hier soir prêt à rencontrer le gouvernement français. De son côté, le président du Conseil italien Giuseppe Conte se veut rassurant. Les relations entre les deux pays sont si anciennes que toute mauvaise passe, même un peu vive, pourra être dépassée. Fin de citation.
Il est 7h03, un contrat russe désormais au cœur de l'affaire Benalla.
Une affaire qui a connu hier de nouveaux rebondissements avec la démission de la chef de sécurité de Matignon. Son compagnon militaire a lui été suspendu et le parquet national financier a donc ouvert une enquête sur le contrat signé entre Vincent Crase et un sulfureux oligarque russe. Vincent Crase, ex-gendarme proche d'Alexandre Benalla, avec qui il était lors des manifestations du 1er mai. Mathilde Lemaire, des soupçons de corruption pèsent sur ce contrat.
Le contrat en question prévoyait la protection des biens immobiliers du milliardaire russe Iskander Mahmoudov en France et à Monaco. Mahmoudov est proche de Vladimir Poutine. Il est à la tête d'un empire industriel spécialisé dans la métallurgie. Fortune estimée par le magazine Forbes, plus de 7 milliards d'euros. Plusieurs magistrats européens soupçonnent cet oligarque d'acquaintance avec des criminels mafieux en Russie. Selon Mediapart, Alexandre Benalla a négocié le contrat de près de 300 000 euros entre cet homme d'affaires russe et la société Mars, société de sécurité de son ami Vincent Crase. Et cela du temps où il était encore en poste à l'Elysée, habilité secret défense. L'ex-conseiller d'Emmanuel Macron a toujours démenti, encore il y a 2 semaines, devant la commission d'enquête du Sénat.
Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Mahmoudov.
Je ne connais pas cette personne, mis à
part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontré.
Étiez-vous informé de la collaboration de Monsieur Kraz avec Monsieur Makhmoudov?
J'étais au courant de ses affaires. C'est un ami, je ne vais pas le cacher devant vous aujourd'hui. Tout ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais contribué à une quelconque conclusion au moindre contrat que Monsieur Kraz a pu passer avec qui que ce soit, encore moins cette personne.
Devant la même commission du Sénat, Vincent Kraz a reconnu avoir travaillé pour cet oligarque russe, mais une fois parti de l'Élysée et sans l'aide, dit-il, de son ami Alexandre Benalla.
Un coup de jeune sur le grand débat. Emmanuel Macron a discuté hier après-midi durant plus de 4 heures avec un millier de lycéens, d'étudiants, d'apprentis, d'élèves en décrochage scolaire, de volontaires du service civique, tous réunis dans le gymnase d'une petite commune du Morvan. Pas d'annonce fracassante, mais un échange était libre. Extrait réuni par Laurence Perron.
Au nom du conseil municipal et de la population étangoise, je vous souhaite à tous la bienvenue au sein de notre commune d'Étang-sur-Arrou.
Je veux votre part de vérité, vos indignations.
Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir les ministres. Aujourd'hui, on prône que l'accès à l'éducation, c'est gratuit. Pour autant, quand on a de l'ambition et qu'on veut faire des grandes études, on doit s'endetter.
On a commencé à améliorer les choses, mais on a encore, je ne vais pas vous mentir, beaucoup de boulot. Je continue comme ça, allez-y.
Vous avez parlé de l'ISF en disant que vous voulez l'annuler. Je trouve que votre réflexion est intéressante. On ne peut pas avoir un système financier où les gens qui réussissent formidablement bien contribuent si peu. Allez, on en prend 3-4 d'affilée dans ces cas-là. Allez-y, gardez le micro.
Je m'appelle Guénolé Delepoul, je suis élève ingénieur à l'école des arts et métiers de Cluny. Aujourd'hui, il y a une énorme baisse du sentiment patriotique. Alors aujourd'hui, je vous demande ce que vous comptez faire pour réunifier la jeunesse française avec son pays et son histoire, et particulièrement dans le cadre de l'école.
Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement scolaire à l'école ?
On se bat contre.
Je me lève parce que franchement, j'arrive pas à rester trop longtemps assise, faut que je bouge.
Tu as fait remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. On arrête maintenant !
Vous avez eu le courage de parler de vous pour ce que vous vivez. Vous l'avez fait, ça, c'est de la politique. C'est le plus beau de la politique.
Reportage signé Laurence Perron. Le service après-vente de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un peu plus d'un an après l'annonce de la décision. Édouard Philippe est attendu aujourd'hui à Nantes et Rennes pour détailler les mesures favorisant la mobilité en Pays de la Loire et en Bretagne. Le Premier ministre doit notamment revenir sur l'épineuse question de l'agrandissement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique.
Il est 7h07, la profonde détresse des enfants yéménites.
Des années que les organisations humanitaires tentent d'attirer l'attention sur la situation au Yémen où la guerre civile qui sévit depuis 4 ans a fait 10 000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé, 5 fois plus selon certaines ONG. Et la majorité des victimes sont des civils, les enfants notamment, paient un très lourd tribut. Omar Waman.
C'est un pays à l'agonie, devenu un enfer pour les enfants, première victime de cette guerre. De retour du Yémen, la directrice de l'ONG Save the Children, Sylvia Galli, rappelle la dure réalité des chiffres.
Nous avons fait des recherches récemment et nous avons découvert que depuis le début de la guerre, près de 85 000 enfants sont morts de malnutrition ou de maladie. Il est urgent de trouver une solution pour mettre fin à ce conflit.
Un conflit qui a fait basculer près de 11 millions d'enfants dans le besoin vital d'une aide humanitaire. Tamara Kummer de l'UNICEF au Moyen-Orient.
C'est la quasi-totalité des enfants au Yémen. Ça vous donne une idée de l'échelle des besoins. Quasiment chaque enfant dans le pays a besoin d'une aide humanitaire.
Des enfants condamnés à la survie et souvent issus de familles de déplacés qui ont fui le front. Sylvia Galli de Save the Children.
Le nombre d'enfants qui mendient dans la rue a augmenté. Ils cherchent à aider leurs parents qui n'ont pas de travail. Il faut savoir que près de 400 000 enfants sont privés d'école.
Des écoles ravagées par les combats ou devenues le seul refuge pour des milliers de sans-abri provoqué par le conflit.
Donald Trump doit dire aujourd'hui devant les élus du Congrès qui il juge responsable de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Hier, la rapporteure spéciale de l'ONU, Agnès Callamard, a affirmé détenir les preuves montrant que le meurtre du journaliste a été planifié et perpétré par des représentants de l'État d'Arabie Saoudite. Alors que les 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, la France va-t-elle revoir à la baisse ses objectifs de lutte contre le réchauffement climatique ? C'est la question que l'on peut se poser à la lecture du futur projet de loi sur l'énergie qui a fuité dans la presse. Il fixe la stratégie énergétique du pays pour les années à venir. Et dans sa formulation actuelle, il réduit l'ambition de certains objectifs climatiques au nom, sans dit dauphin, du réalisme.
Il n'est plus question de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990. L'objectif est remplacé par la formule « neutralité carbone ». Ça veut dire ne pas envoyer dans l'atmosphère plus de gaz réchauffant qu'on ne peut en absorber, soit par des pompes naturelles comme les océans, les forêts et les sols, ou par des technologies de captage de CO2. Yves Marignac de l'association Negawatt milite pour la transition énergétique et il y voit un renoncement.
On introduit du flou. Aller vers la neutralité carbone, c'est nécessaire, mais il ne faut pas pour autant renoncer à un objectif clair de réduction des émissions elles-mêmes.
Autre recul, la chasse au gaspillage d'énergie. Moins on consomme, moins on émet de CO2. L'objectif de 20% d'économie d'énergie en 2030 est abaissé à 17%.
Malheureusement, depuis des années, on n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs voulus. Le réflexe voudrait qu'on renforce les politiques. Il semble au contraire que le gouvernement soit sur la voie d'une forme de renoncement.
Le projet de loi sur l'énergie confirme la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2035. Pas de quoi rassurer les associations de défense de l'environnement qui vont batailler ferme pour que cette première mouture ne soit pas la version finale de la loi.
Le plan de bataille des fabricants de couches, épinglé par la présence de substances chimiques potentiellement toxiques dans 23 modèles testés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les fabricants ont donc élaboré un plan pour réduire l'usage de ces produits à risque. Plan qui sera présenté aujourd'hui dans les locaux de la répression des fraudes. Football, et Lyon est le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après sa victoire 2-0 sur Guingamp hier soir. Lyon qui recevra Caen donc au prochain tour.
Et coup de jeune aussi sur les victoires de la musique.
34e édition et la part belle faite à des artistes qui étaient encore inconnus il y a 2 ans. Un gros tiers des nommés sont ainsi en lice avec leur premier album. Et puis une nouvelle catégorie fait son apparition cette année, l'album des musiques urbaines, qui vient s'ajouter à l'album rap de l'année. Dans la première catégorie sont nommés Eddie Depreto, Big Flo et Oli, Aya Nakamura. Et dans la deuxième, Moa La Squale, Damso et Giorgio. Une création qui vient confirmer, Mathieu Culeron, la suprématie des musiques urbaines en France.
La création de cette nouvelle catégorie est partie d'un constat simple. L'année dernière, 50% de la production musicale française présente dans le top 200 des meilleures ventes venait de la scène urbaine. Un véritable tsunami qui a créé de nouveaux genres plus proches de la variété ou de la pop que du rap de rue. Benjamin Chulvanige est directeur de Barclay Def Jam chez Universal.
Je pense que de créer cette seconde catégorie était vraiment inespéré. Moi, je l'attendais depuis des années. Je vous donne un exemple. À l'époque, je produisais un groupe qui s'appelait Arsenic. On était dans la même catégorie que Mano. Quand Mano a gagné, je m'en souviendrai toujours, ils étaient mal à l'aise. Il y a de la variété française, il y a du rock, et ben il peut y avoir de la pop urbaine et du rap de rue, voilà.
Dans son écurie, Universal dispose d'environ 60 à 70% de l'ensemble de la production urbaine en France. La fusion du label 100% urbain Def Jam avec Barclay est également un signe fort. Benjamin Chulvanige.
Moi, je me bats pour ce mouvement depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on peut dire que la musique urbaine est la musique la plus écoutée dans le monde. Aujourd'hui, le rap est la musique qui run the world, comme dirait Beyoncé.
Et cette année, pour les victoires de la musique, sur 40 nommés, une quinzaine d'artistes peuvent être assimilés au rap ou à la musique urbaine.
Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à l'hosto. Je suis mort, éteigne la GoPro. Noir, Saint, Dums, hey. Ce soir, je me mets, mais là, pourquoi je me fais, c'est ma
chef. Aurel San, que vous retrouverez tout à l'heure à 7h50 sur Inter avec Camélia Jordana, et à découvrir également sur franceinter.fr les répétitions des victoires hier soir à la scène musicale de Boulogne-Billancourt.
Merci Agnès Soubiran.